Idriss, bonsoir. Nous sommes le lundi 30 janvier 2023. Il est 20h et comme tous les lundis à cette heure-ci, on joue la prolongation. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de On joue la prolongation, votre émission sportive favorite, hein, ça on le sait. Ce soir à mes côtés, il est le fondateur de l'agence de marketing sportif Sportimize. Il va bien sûr nous apprendre plein de choses encore ce soir. Il a, je crois, même une petite exclue. En tout cas, on va parler de choses bien intéressantes dans le domaine du business, de l'équipement sportif notamment. Je vous avais bien sûr reconnu, avec un grand plaisir de le retrouver ce soir en studio, monsieur Alex Demeter. Salut Alex, ça va?
Salut Sam, salut Henri, bonsoir à tous, ça va super.
Eh ben parfait.
Bruges a gagné ce week-end.
Bruges a gagné.
C'est déjà un miracle en soi, ça fait 3 mois que tout le monde l'attendait.
Ça y est, ouais, c'est vrai, une fin de série. Et puis un autre... Ah voilà, vous avez reconnu, hein. Une autre personne qui doit être bien, bien contente ce soir dans le studio, c'est notre supporter des Mauves numéro 1, Henri Daniel. Salut Henri, comment vas-tu? Tu vas bien, et ben tant mieux, oui, c'est vrai que les Mauves n'ont pas perdu, hein. C'est quand même... ça commence à faire énorme. Hein. Alors écoutez, ce soir, le programme est simple. On va parler Jupiler Pro League, bien sûr, les résultats de la 23e journée. On va faire un petit tour en Europe, un peu ailleurs aussi en Europe, puisqu'il s'est passé pas mal de choses. On commence à approcher du retour des Coupes d'Europe et donc les clubs se mettent en ordre de bataille d'une certaine manière, comme Yele. Voilà mon petit jeu de mots. Il y a le bataille.
Non, voilà, ça,
vous l'aviez, voilà, non, comme il n'y a pas eu très... Bon, d'accord.
C'est presque plus fascinant que le match Anderlecht Antwerp.
Dont on va parler, c'était assez fascinant. On va parler Mercato aussi, puisque, comme vous le savez, le Mercato se termine demain soir. Il y a encore eu pas mal de mouvements dans les clubs belges aussi, des départs surprises, des figures fortes de notre Jupiler Pro League qui vont quitter le championnat, je pense notamment du côté de l'Union. Et on va parler aussi un petit peu des évolutions, des avancées peut-être au niveau du choix du T1, du sélectionneur des Diables Rouges. En tout cas, on en sait peut-être un peu plus sur le directeur technique. On avait pressenti ça la semaine passée et visiblement, les choses ont l'air de se confirmer, en tout cas pour le directeur technique. On va parler de tout ça. Je vous propose bien sûr qu'on commence, comme d'habitude, comme dans tout bon match de football, il faut un coup d'envoi. Voilà, le coup d'envoi est donné. Alors on va passer directement à notre Jupiler Pro League. Alors la Jupiler Pro League, c'était le 23e épisode de cette série passionnante. Il reste 11 matchs, donc, puisque on vous le rappelle, 34 matchs de saison régulière. Un petit peu, on est comme en NBA, un peu. On a la saison régulière et ensuite les playoffs. Donc on commence à se rapprocher du poteau final. Et effectivement, les équipes vont devoir un petit peu celles qui ont un objectif clair en tête. Eh ben, il va falloir qu'elles mettent leurs actions en conformité avec leur désir. Et on va commencer, si vous le voulez bien, par Zulte Waregem contre le club de Bruges, parce que c'est vrai qu'on parle souvent du club. Souvent, ces derniers temps, c'était pour s'étonner du fait que la série de matchs sans victoire se poursuivait d'une manière tout à fait exceptionnelle, puisqu'on n'avait pas eu depuis... C'est depuis 2011, je crois, qu'on avait dit qu'il fallait remonter à 2011 pour voir une série de 6 ou 7 matchs sans victoire du club de Bruges. ça y est, la malédiction est tombée. Le club de Bruges l'a emporté 1-2 à Zulte Waregem. C'était un match compliqué quand même pour les Brugeois. On rappelle qu'ils sont à deux semaines eux aussi de la Ligue des Champions, d'un très gros rendez-vous face à Benfica. Des difficultés, disais-je, côté brugeois, notamment j'ai trouvé côté difficultés défensives un petit peu. On a vu la sortie, il n'était pas content du tout de Mata. Mata qu'on voyait plus. On se demandait, on s'était posé la question nous-mêmes, pourquoi est-ce que, tiens, c'est curieux, il préfère faire jouer Buchanan que Mata. Il a fait jouer Mata. On a vu qu'il n'était pas... C'est pas le meilleur Mata qu'on ait connu ces dernières saisons qui a joué. Et il a été remplacé assez rapidement, un peu avant l'heure de jeu, je crois, par Brandon Mekele. Alex, toi qui es un suiveur attentif des résultats du club de Bruges, comment est-ce que tu analyses cette victoire? Je vais reprendre à mon compte et au compte du pour qualifier ce match, ce qu'a dit Thierry Henry. On va parler de la Ligue 1 un petit peu tout à l'heure. Hier, je regardais le match de Ligue 1 et puis le PSG menait 1-0. Et il disait, il y a un moment où voilà, il y a des victoires qui... On prend une victoire 1-0 qui est moche. C'est pas grave, à la fin de la saison, on se souviendra juste qu'on a gagné les 3 points. C'est peut-être ce type de match dont il s'agit pour le club de Bruges hier. Ils ont pris leurs 3 points, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas gagné, ils en avaient besoin. Et à la limite, peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse.
Moi, je m'étonne qu'ils aient gagné. Parce que quand on regarde ce match, franchement, c'est scandaleux. Tu parles de Mata, sa prestation n'était pas bonne, c'est clair, comme les trois quarts de l'équipe, mais je crains qu'en continuant comme ça sur cette lancée avec l'Union, l'Antwerp, Benfica qui arrive, Bruges est vraiment dans la mouise. Et ça, je pense que c'est l'effet Parker aussi, parce que il a dirigé 5-6 matchs, ouais. À chaque fois avec une défense différente. On a un qui sort, l'autre qui rentre. Il n'y a personne qui est sûr de sa place à part Meyer, maintenant que Sobol est parti à Strasbourg la semaine dernière. Donc Meyer, il est sûr de sa place et toutes les louanges, car du haut de ses 19 ans, il fait des matchs...
C'est un super...
Quand, ouais. Quand il est mauvais, il fait des matchs corrects. Donc quand il est très bon, tu t'imagines. Mais à part ça, les autres, il n'y a personne qui est sûr de sa place. Et là, tu commences de nouveau avec une formule hybride avec Odoi et Boyata en défense centrale. Tu fais ça contre Benfica, tu t'en prends 12. Hein.
Oui, c'est ça le problème. C'est qu'effectivement, il y a des matchs... c'est plus le moment de tâtonner. Généralement, dans une saison, quand tout se passe correctement, vous avez un début de saison au cours duquel vous formez votre noyau, vous constituez, le jeu commence à se mettre en place, il y a des automatismes, il y a des joueurs qui sont titulaires de manière plus ou moins indiscutable, d'autres qui rentrent, d'autres qui sortent. Mais là, avec un changement d'entraîneur qui il y a à peine un mois, et comme tu le disais, beaucoup de changements, notamment dans la ligne défensive, on en arrive face aux très grosses échéances, celles qui sont les plus importantes. Alors on sait que pour le club de Bruges, être sorti de sa poule, c'était déjà un bel exploit, même si...
Avec ce qui s'est passé par la suite, c'est miraculeux.
C'est miraculeux, quand on voit ça, c'est vrai.
Ils peuvent tous aller à Lourdes. Hein.
Mais c'est vrai que du coup, ben voilà, on va se retrouver face à Benfica avec aucune certitude, vraiment aucune certitude, défensivement, mais aussi offensivement. J'ai bien aimé, moi, le retour quand même de Noah Lang, que je trouvais vraiment absent depuis le début de la saison. Je vais aller même un peu plus largement, même la fin de saison dernière. Bon, là, il semble avoir fait... il revient, en tout cas, à son niveau. En tout cas, il est performant. Il marque ou il pèse un peu plus que ce qu'il a fait.
La Coupe du Monde lui a fait du bien.
Ouais.
Il était avec d'autres joueurs, il était avec Louis van Gaal. Ça s'est bien passé. Et tu sens vraiment, il a envie. Il a envie de se montrer, il a envie de bien terminer la saison. Il a envie de partir aussi, je pense. Mais le problème... Brugeois est psychologique. Ça fait des semaines qu'on en parle, ça fait des semaines qu'on le dit, ça fait des semaines que tous les analystes le disent aussi, que même les joueurs s'affirment de plus en plus dans ce sens-là. Donc il y a Rudy Allen qui était de son temps, il y a quelques années, il y a 10 ans d'ailleurs en fait, il était déjà préparateur mental, on va dire, à Bruges, je l'ai encore bien connu, c'est quelqu'un en or, et là il revient à Bruges pour pallier à leurs problèmes psychologiques, on va dire. Donc lui, il a été engagé, mais de l'autre côté, tu as Scott Parker. Comment veux-tu installer une confiance dans une équipe en reconstruction défensive en changeant tes pions tous les matchs?
Ouais.
Personne n'est sûr de sa place, tout le monde est en panique. Et je connais quelqu'un à Bruges qui m'a dit, mais les joueurs ils ne sont pas en forme, mais quand tu les traites entre guillemets de cette manière-là, quand tu fais jouer à chaque fois quelqu'un d'autre, que tu n'es pas sûr de ta place, que tu t'entraînes toute la semaine et que pour une raison farfelue, inconnue ou que sais-je, tu ne joues pas le match le week-end, tu ne sais pas grandir. Tu ne sais pas grandir dans ton rôle, tu ne sais pas créer ces nouveaux automatismes que l'entraîneur demande. Ce n'est pas une défense à 4 et qu'on mette Oufkens, qu'on mette Adri Koster, qu'on mette Alfred Schroeder ou qu'on mette maintenant Scott Parker, j'allais dire Tony Parker, mais ce n'est pas ça, qu'on mette Scott Parker comme entraîneur. Ton animation, ta sortie de défense, ton animation offensive, ta construction, elle est différente.
Elle est différente.
Chaque entraîneur a son accent, donc les joueurs doivent s'adapter à ça aussi. Ce n'est pas aussi facile et linéaire qu'on le pense.
Oui, c'est vrai, ce que tu dis est important, c'est-à-dire qu'on...
Et pour Mata précisément, on attend tout à fait autre chose. Pour Clinton, l'arrière droit de Bruges, donc, dans son animation offensive et dans son jeu offensif en montant, qu'on attendait sous Oufkens ou sous Schroeder l'année passée. Les joueurs ne savent pas s'adapter, ils ne savent pas comprendre, on ne leur laisse pas le temps non plus de recréer ces nouveaux automatismes que trois jours après ou quatre jours après.
Je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que placer les joueurs sur le terrain, c'est une chose, on va dire, on joue à, grosso modo, grossièrement, on a le choix entre une défense à 3 ou une défense à 4, hein, grosso modo. Mais même dans les défenses à 4, il y a effectivement des philosophies qui sont différentes, que tu parlais notamment, et c'est vrai très important pour une défense, de la sortie de balle. Comment est-ce qu'on décide d'animer le jeu, de déclencher l'offensive une fois qu'on a récupéré le ballon? C'est différent d'un entraîneur à un autre. Il va vouloir chercher la profondeur, il va vouloir qu'il y ait des projections de joueurs latéraux ou pas. Et c'est vrai que quand on change les pions aussi fréquemment, et ben on a du mal. L'arrière-droit, il a beau être arrière-droit de métier, si on lui donne une consigne qui est fort différente de celle qu'il avait en début de saison et qu'il n'a pas l'opportunité de la mettre en pratique, ça devient compliqué.
C'est toujours le problème d'un entraîneur qui est débarqué et qui arrive en cours de saison, qui a envie de
mettre un peu sa patte un peu, voilà.
Sa patte, puis il faut voir ce qu'on lui a demandé aussi. On lui a dit, viens à Bruges parce que ça ne marche pas. Il a demandé qu'est-ce qui ne marche pas.
Mais justement, quand tu analyses qu'est-ce qui ne va pas, ce n'est pas un problème qualitatif.
Mais non.
Ce n'est pas un problème tactique.
Non, mais là, ce n'est
pas nécessairement, c'était pas nécessairement un problème tactique et ce n'est pas forcément un problème stratégique non plus. Et là, tu vas analyser les résultats. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, l'Union, l'Antwerp, OHL, je ne sais pas tout. Enfin, il y a une liste de 10 matchs. Ils ont perdu les pieds psychologiquement et ils n'ont pas su contrer le but de l'adversaire et ils n'ont pas su se ressaisir. Et là, quand tu analyses ça, qu'est-ce que tu fais? Tu redonnes confiance à ton équipe, tu redonnes confiance à tes joueurs, tu donnes confiance à tes soldats qui vont devoir t'amener des points. Et là, dans l'assise défensive ainsi qu'au même au poste d'attaquant central, tu fais exactement l'inverse. Et quand tu étais joueur qui a été 400 fois titulaire en Première Ligue, personnellement, je m'attends à autre chose. J'ai pas envie de le brûler, j'ai encore envie de lui donner un bénéfice du doute jusqu'à la fin de saison, en fait. Mais je me pose de sérieuses questions. Je ne suis pas le seul à me les poser.
Je pense que la tentation est forte pour un entraîneur qui arrive de mettre en place quelque chose qui marque la différence de ce qui s'est passé. Le problème, c'est que quand tu arrives en début de saison, t'as toute la préparation, tu peux t'amuser en match amicaux à faire des tests, etc. Là, t'es en plein championnat, t'es dans le deuxième tiers du championnat, presque le troisième tiers déjà.
Oui, c'est le moment le plus important. Enfin, les matchs comptent encore plus avec la formule de la Jupiler Pro League. C'est-à-dire que...
Surtout que derrière, ça pousse. Hein.
Ça pousse derrière, on n'a pas le temps. On sait qu'il y a une carotte, c'est le play-off. C'est pas comme si vous étiez dans un championnat où vous allez aller chercher, certes, la qualification en Coupe d'Europe si vous ne pouvez plus jouer le titre déjà. Mais là, il y a une vraie carotte et des écarts qui se font maintenant. Et comme tu le dis, ça pousse beaucoup.
Ben oui, la Gantoise, le standard qui revient dans le coup.
Voilà.
La Gantoise qui a raté le coche un peu.
Oui.
Ils vont encore rater le coche, mais le problème étant Bruges, tu n'as pas regardé qu'est-ce que fait le standard, qu'est-ce que va faire Gant, qu'est-ce que fait Westerlo. Tu dois regarder déjà qu'est-ce que font les trois premiers, même si Genk, je ne les vois même plus, moi, à l'horizon.
Personne ne les voit.
Mais,
attention à l'Union.
Analyser tes adversaires est une chose, mais avoir ta stabilité et ta cohésion et ta cohérence auprès de ton groupe, ça, c'est pour moi le problème primaire à régler du côté.
Je connais pas le parcours de Scott Parker. Je sais pas est-ce qu'il est déjà arrivé dans un club en cours de saison, parce que le travail est différent quand tu arrives en début de saison et tu construis et ton staff et ton équipe et t'as une influence sur le mercato, t'as une influence sur le jeu proposé, sur la stratégie.
On est d'accord, mais à un moment il faut pas réinventer l'eau chaude. Hein,
c'est pour ça que je disais, il faut analyser ce qui marchait et ce qui marchait pas.
Alors au rayon de ce qui a marché, on peut quand même parler du milieu de terrain de Hans Van Aken qui marque, qui fait un assist, en tout cas sur le papier. Skovolsen, toujours un soldat efficace.
Un excellent joueur, mais il a eu quelques pépins physiques. Et quand je le vois courir à la 87e minute avec deux Brugeois face à deux joueurs de Zulte Waregem qui est déjà à 10 et qui garde la balle jusqu'à ce qu'il fonce dans un adversaire, je me pose de sérieuses questions. Et c'est là que tu vois qu'il y a ce manque de confiance, qui n'a pas cette cohésion, cette envie de jouer ensemble. Mais
oui, mieux,
ça, c'est quelque chose qui a
dans de meilleures dispositions psychologiques, il la donne plus facilement. Ouais.
Pour rebondir sur ce que tu disais là tout de suite, pour avoir vécu un tas de préparations, que ce soit estivale ou hivernale avec des équipes, tu crées cette cohésion, mais les joueurs savent exactement à quoi s'attendre. Vous jouez match 1, vous jouez match 2, vous jouez match 3, vous jouez match 4, hybride match 5, hybride match 6, et après tout le monde sait, mais il n'y a pas de manque de confiance. Ici, tu n'as pas, visiblement pas de communication claire top-down, staff, entraîneur-staff, joueur, et les joueurs ne savent pas à quoi s'attendre. Et pour des joueurs comme Boyata, par exemple, qui ne sont pas exceptionnels cette saison, et je pèse mes mots, mais c'est dramatique. Tu vois qu'il passe à côté de son ballon, il ne sait pas quoi faire, il est perdu, et puis il se fait remplacer, c'est mauvais pour la confiance. Et il y a Remchuk, c'est pareil. Jutgla rejoue, Jutgla se blesse, d'ailleurs, il faut encore voir à quel point c'est dramatique ou pas. Et puis il y a Remchuk monte et on leur fait redescendre. Waouh! C'est violent.
J'ai pas très bien compris cette. J'ai vu la blessure de Jutgla, j'ai pas tellement d'infos dessus. C'est vrai que sur le premier coup qu'il prend.
Rien n'a été communiqué de toute façon.
Le premier coup qu'il prend, c'est lui, enfin c'est même lui, ils vont au contact et puis on voit qu'il tourne la tête pour voir où se trouve son adversaire et il y va de bon cœur. Malheureusement pour lui, il doit taper sur une partie de son adversaire qui est plus dure que sa hanche à lui. Et puis il s'écroule un peu après. Ouais, ça c'est une mauvaise nouvelle aussi.
17 minutes, un coup direct, c'est plus qu'un coup direct.
Ouais. Écoutez, on va leur. Mignolet est pas non plus. Plus sûr qu'il l'a été.
Mais il a joué avec un soulier d'or.
Ah, pourtant. Bah, il a fait fondre son soulier, il a fait deux gants en or. C'est et là, finalement, le seul but que Bruges prend, ce n'est pas de sa faute. Boyata passe à côté du ballon, Mata est surpris, il rate son contrôle. Et l'autre, il est plus rapidement sur le ballon d'or, il est plus rapidement sur la balle que Mata. Et avec 53% de chance de marquer à cet endroit-là, fatalement, il ne laisse pas l'occasion passer.
Un mot sur
Mignolet a fait un bon match.
Sur Endur. Oui, non, c'est vrai, je suis sur Alioune Endur, donc ce joueur qui a été. Il a un peu crevé l'écran hier. En tout cas, il a été. On l'a vu d'une tonicité, on l'a vu vraiment courir et surtout les.
Henri l'avait bien vu parce qu'il a marqué à Nouvelle Écosse.
C'est ça. Ne sois pas méchant avec
ça. Non, je ne suis pas méchant, c'est vrai. Depuis la trêve hivernale, Waregem a un sursaut d'orgueil. Et c'est un joueur
ils ont
clé.
Bien ça, c'est un mercato réussi. Hein.
C'est un joueur clé, justement, de ce Waregem 2 ou 3.0 qu'on a après la trêve.
Oui, puisqu'ils sont sur 7 points dans les 5 derniers matchs, vous me direz, c'est pas exceptionnel. Mais quand vous regardez leurs adversaires directs, Ostende n'a pris qu'un point en 5 matchs, Serein, c'est 3 défaites de suite, et Eupen est à 4 points sur les 15 dernières.
Le mois de février sera important, parce qu'ils jouent successivement Ostende, Serein et Courtrai, si je ne me trompe pas.
Donc ça, on est vraiment dans
le
bas du tableau. On se souvient, on rappelle, parce que cette saison va être aussi particulière, qu'il y a 3 descentes. Donc il faut être au minimum 15e pour s'en sortir. Une équipe qui sera sans doute pas 15e, en tout cas on ne lui souhaite pas, c'est Anderlecht. Anderlecht qui jouait contre l'Antwerp lors de cette 23e journée, un match nul 0-0. Personnellement, je dirais, sans vouloir être offensant, qu'Anderlecht s'en sort bien. Anderlecht aurait pu perdre largement.
Les matchs ont fait qu'ils auraient pu aussi prendre le dessus en jouant 11 contre 10.
Oui, mais pour ça, il faudra pas longtemps. Mais ils ne sont pas restés longtemps parce qu'il y a aussi une question de un petit peu d'intelligence de certains joueurs.
Un petit peu.
Benito Raman, là, il a été fabuleux. C'est-à-dire qu'il vient se prendre un jaune dans un échauffouré qu'il ne concerne pas. Et puis, il fait une faute d'une absurdité. Enfin, tellement grossière, c'est-à-dire qu'il, pour ceux qui n'ont pas vu, il retient, il perd le ballon sur un côté, il est long de la ligne de touche, et puis son adversaire donc récupère la balle, démarre une transition, et puis il l'attrape par le maillot, et puis on voit vraiment très bien, clairement, le maillot se déformer derrière. Bon, l'arbitre n'a pas d'autre choix.
À 60 mètres du but.
Oui, à 60 mètres du but, c'est vraiment une faute qui a aucun. Quitte à faire une faute, au moins autant la déguiser un peu, mais là, ça n'a aucun intérêt, sauf pour l'Antwerp de voir Anderlecht réduit à 10, puisque l'arbitre n'avait pas d'autre choix que de sortir le deuxième jaune.
Mais toute personne un peu sensée qui suit le football belge sait que Benito Raman, son quotient intellectuel, ne dépasse pas son numéro de maillot. C'est pas la première fois qu'il fait ce genre d'ânerie.
Mais et contre, il pénalise, a le numéro 9, je rappelle.
Il pénalise énormément. Oui, il n'a pas le 99 et encore, ce ne serait pas forcément mieux. Mais il pénalise énormément son équipe. Ce n'est pas la première fois.
C'est une faute professionnelle. Là. C'est... Et ce qui est terrible, c'est sa réaction juste après. C'est révélateur de son cerveau qui réfléchit après.
Oui, c'est ça. Zut, ah oui.
Lequel ?
C'est-à-dire lequel ?
Non, franchement.
C'est absurde.
Je pense que depuis 8-9 ans qu'il est là, à part un petit passage à Schalke en Allemagne, chaque année, lumière s'éteint, et il fait une ânerie et il pénalise son équipe.
Bon, jusque-là,
c'est pas mieux que Silla, il y a quelques semaines, à Genk, hein, attention, face à Bruges. Mais
jusqu'à la première exclusion, c'était quand même 0-0. Ça méritait pas mieux, je pense.
Ça méritait pas mieux, non. On retrouve un peu Yari Verskaren. Hein,
il était mobile.
Il était mobile, il est tenté d'avoir...
C'était son moins mauvais match.
Envie, ouais. Il y a quelques...
Et puis il y a la gestion de Trebel qui de nouveau pose question. On met sur le banc, on le fait monter, il se claque.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on va dire, ouais, de Trebel
Je ne sais pas comment c'est géré. Il doit y avoir un staff quand même aussi médical. Il y a une approche en compte dans un club professionnel comme celui-là. Il devrait être plus global. Il y a le psychologique, on en parle pour Bruges, mais il y a le physique qui est important. Et s'il se blesse, je pense qu'il y a un problème.
Alors, je pense qu'il y a un excellent préparateur physique qui s'appelle Thibaut Meyer, qui était à l'Union avant, et avant ça, il était à Eupen, il est français. Franchement, c'est un travail de très grande qualité. Mais après, tu as un nouvel entraîneur et on ne sait pas encore comment Riemer fonctionne. Donc, est-ce qu'il tient compte de toutes les datas ? Est-ce que les joueurs s'entraînent un peu en fonction également de leur état physique, de leur état de santé, de la nuit qu'ils viennent de passer ? Parce que si tu dors 4-5 heures, tu ne vas pas t'entraîner comme si tu en as dormi 8 ou 9.
Donc, c'est étonnant.
Est-ce qu'on tient compte de tout ça aussi ? Et certainement pour un joueur comme Trebel qui est fragile,
qui est déjà payé cher,
presque comme du cristal.
Ouais.
Ça c'est la question, mais ça il y a les accents de l'entraîneur et ça je pense que c'est un peu tôt même pour que ça sorte et le mécontentement.
Et ça fait beaucoup. Il y a déjà une faute professionnelle quand il y avait cette histoire de changement qui a été fait, qui était pas,
ouais.
C'était assez stupide au niveau d'un club comme Anderlecht de jouer à 10 parce qu'on oublie de faire monter le joueur qui est descendu puis on le fait remonter.
Face à l'Union.
Et Cerdella qui remonte, qui prend.
Vous étiez à 9 même.
C'était vraiment ridicule. Et là, de nouveau, je pense qu'il y a quand même une faute professionnelle de Rahman. Et puis, il y a le staff qui, à mon avis, a une responsabilité sur la blessure de Trebel.
De Trebel, oui.
Je trouve que ça fait beaucoup.
Alors, pourquoi je disais que Anderlecht méritait pas mieux. Je dis ça parce que Verbrugge a fait un super match.
C'est l'homme du match.
Et c'est vrai que
l'homme du match, c'est
ouais, quand le gardien le met exactement. Et il fait notamment une action où il sort deux ballons qui doivent faire but normalement. Et c'est vrai que voilà, on se dit qu'avec un autre gardien, ou en tout cas, ou un gardien, ce gardien dans une autre forme hier, c'était sans doute une défaite pour Anderlecht, peut-être en tout cas. C'est pas une défaite, là, c'est 0-0. Ça permet.
Contre un ténor,
contre l'Antwerp 3e. Ça permet à Anderlecht de consolider sa 11e place. C'est triste à dire. Mais Anderlecht se retrouve donc aujourd'hui à 5 points seulement de la 8e place. Et donc, pour encore espérer, bien sûr, accrocher le play-off 2. Pour le play-off 1, ça paraît beaucoup plus compliqué.
On parlait de ce qui se passe en coulisses.
Oui, parce que effectivement, on va faire une page mercato, mais c'est bien d'inclure. On va parler tout de suite de ce qui.
C'est-à-dire qu'une bonne gestion d'un club.
Exactement, tu me dis.
Influence directement ce qui se passe sur le terrain. On en a déjà parlé plusieurs fois. On a un exemple concret, deux même, je dirais.
Ouais.
Aitelage qu'on vend alors que c'est bien. On cherchait quelqu'un qui avait de l'ADN dans le toit. C'est bien lui.
Si je peux me permettre, tu devais le vendre.
Mais c'était
la relation était complètement foutue avec le club. Et accessoirement, Anderlecht a besoin de beaucoup d'argent.
Est-ce que si tu as une bonne gestion, tu as un club qui est bien géré, tu n'as pas besoin de vendre.
Et le deuxième.
Des ventes paniques.
Qui va rendre. Pour remplir les caisses, parce qu'il rapporte 4 ou 5 fois plus qu'Aitelage, c'est Durandville. Et ça, on peut considérer, en tout cas pour le public belge, pour le public de Jupiler Pro League et bien sûr pour les Anderlechtois avant tout, que c'est un gâchis de ne pas pouvoir profiter de ce joueur qu'on a vu 3 fois, dont on a vu plein de merveilles, et de se dire qu'il est vendu il a 16 ans et demi, il est vendu 8,5 ou 10 millions d'euros, ce qui est une belle, très belle somme qui va permettre sans doute de donner un bon bol d'air à Anderlecht, mais voilà, c'est dommage de se dire que quand on réussit enfin à toucher une pépite, ben on ne peut même pas en profiter quelques semaines.
Si le joueur vaut 8 millions maintenant, il vaudra si effectivement il a son talent, il en vaudra au moins autant dans une saison 2. Donc si t'es bien, bien géré, que t'as pas un besoin imminent de cash, tu peux le garder, t'es sûr de le vendre à un prix...
C'est ça qui s'est passé avec Lukaku, Tielemans, Dendoncker, même Pratt sur un malentendu. C'est ça qui s'est passé, mais là, tu as un cruel besoin de cacher. Hein.
Donc, ouais. Ça confirme ce que je disais. On me demande quel est le malaise à Anderlecht. C'est plus en coulisses que sur le terrain, j'ai l'impression. Ça.
Le malaise financier, il est là depuis que Cook est arrivé.
Ouais. Soyons francs. Et c'est pas fini avec les actions de justice qui sont lancées par Cook.
Oui, mais ça, c'est quelque chose qui me fait rire. Parce que Cook, enfin Mark Cook en lui-même, avant d'être au stand, avant d'être dans le foot, il était, il était justement dans le pharma, et il a lui-même vendu sa firme à une firme américaine qui a porté plainte contre lui parce qu'ils se sont fait arnaquer de plusieurs centaines de millions. Donc c'est un peu cocasse qu'aujourd'hui il aille attaquer Van den Stock et ceux qui vendent Anderlecht pour exactement les mêmes raisons. Donc c'est... Ouais. Il y a de quoi se poser quand même aussi des questions à ce sujet. Après, c'est un retour de flamme peut-être.
Exactement. L'Antwerp, donc ça c'est le troisième du championnat. On va monter un peu au classement et on va parler de l'Union. L'Union qui se déplaçait, il y avait des belles retrouvailles avec à Charleroi, puisque c'était Mazou qui affrontait son ancien club et l'Union l'a emporté un but à zéro. L'Union fait pas trop de bruit en fait finalement, c'est-à-dire que entre Genk qui impressionne beaucoup, en tout cas qui impressionnait, là ils ont refait un super match, mais ils ont eu un petit passage à vide, mais surtout entre les déboires de Bruges, du Standard, d'Anderlecht, l'attention est plus focalisée sur eux que sur l'Union, qui finalement, parce qu'on parle de Genk en disant qu'ils sont intouchables, ils ne sont qu'à 6 points devant l'Union, avec certains matchs en plus à jouer, un match qui n'est pas
face à Eupen. 1er février, donc c'est dans deux jours.
Voilà, donc bon, ils ont potentiellement 9 points d'avance Genk, mais voilà, finalement l'Union n'est pas si loin. On rappelle qu'on divise les points par deux, donc on serait à 4 points, plus avec en cas d'égalité le titre pour Genk. Mais voilà, l'Union l'a encore emporté.
4 points, ça veut dire que tu as ton saut entre tes mains, tu gagnes tout, tu es champion.
T'es champion, exactement. Ouais, ouais.
Tu peux ne pas dépendre des résultats des autres.
Et donc ce match, une petite analyse, un petit... Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce que vous avez vu
J'ai rien vu.
T'as rien vu?
Donc c'est simple.
J'ai pas vu non plus, mais ce que j'en ai entendu, c'est... Enfin, ce qui est révélateur, c'est quand tu disais au début de l'émission, c'est des victoires qu'on...
C'est
tu joues mal et tu prends les points quand même.
Et tu prends quand même les points.
Nilsson m'étonne, j'avais pas mis un copec sur lui, j'avoue que...
Oui, le Suédois Nilsson qui saisit sa chance.
Il faut dire qu'il vient du milieu de classement de Détroit allemande.
Oui.
Moi, j'arrive pas, je suis épaté. Tu vas peut-être nous en dire un peu plus parce que tu connais les... Comment est-ce qu'on réussit à trouver, à dénicher ce genre de joueurs? Alors, je sais bien qu'il y a des scouts un peu partout, mais vraiment, il faut avoir... Alors, on ne dit pas qu'il va faire une carrière exceptionnelle, qui sera toujours très très bon, mais réussir à sortir un joueur qui vient du milieu de classement de Détroit allemande et qu'il arrive à être au niveau rapidement, c'est une bonne pioche et quel travail.
C'est très long à expliquer, mais disons qu'il y a une variable essentielle, c'est l'atmosphère au sein du groupe. De joueurs plus staff. L'atmosphère est exceptionnelle. Tu arrives en tant que nouveau, tu es immédiatement bien accueilli par tous les joueurs. Ça, quelques heures plus tard, tu fais vraiment partie de la famille.
Ouais, ça doit jouer énormément.
C'est une variable déjà essentielle pour se sentir bien où on arrive, même si on arrive avec potentiellement des doutes sur ses propres capacités, sur le choix du club, sur le choix de la ville où on va habiter. Tu arrives, tu te sens immédiatement bien. Ça, c'est la première chose opérationnelle. En coulisses, c'est sur base de data, c'est sur base de statistiques analysées dans les moindres recoins, j'ai presque envie de dire, dans les moindres détails qui vont faire. Et voilà, ici, forcément, c'est une bonne pioche, tout va bien, etc. Mais pour une bonne pioche, il y a aussi une mauvaise dont on ne parle pas du tout. Mais on ne va pas citer le nom non plus. Mais voilà, il n'y a pas que des réussites.
Effectivement. Non, mais c'est ce qui est surprenant, en tout cas, c'est bon, on peut se tromper sur un joueur qui est déjà identifié, qui est connu. On peut se tromper bien sûr aussi sur un joueur qui est totalement inconnu, mais ce qui est assez impressionnant, je trouve, c'est lorsqu'on sort un joueur qui est vraiment un inconnu complet, sorti de, comme tu le dis, 3e division allemande, et puis bah, voilà, il monte sur le terrain et et il est là et il fait son, son travail.
C'est le cas pour Nilsson, c'est le cas pour Sykes qui vient aussi de Détroit anglaise. De, ou de D4, même d'Accrington Stanley. Ouais.
Dans, un, dans une moindre mesure aussi, peut-être Kasper Nielsen, il y a 2-3 saisons, il n'est pas, de, il n'est pas d'aussi bas, mais il était...
Kasper venait quand même d'un club qui jouait l'Europe au Danemark.
C'est vrai.
Il a, quand même, il a joué il... face au Standard l'année d'avant, etc. Donc ce, c'était plus une surprise en fait, qu'il vienne en D2 belge à l'époque.
Oui, c'est ça, parce que l'Union
pour nous
était...
rejoindre, plutôt qu'aller ailleurs, ou en Russie, il y avait des clubs russes, je pense, qui était intéressé aussi, si je me souviens bien.
Undav aussi.
Mais Undav était meilleur buteur de Détroit allemand, lui.
Donc, Détroit, ouais. Quand même.
Il avait quand même mis des buts juste avant la crise Covid. Il mettait des tirs du milieu de terrain. Donc c'était, il avait déjà un petit nom et il avait aussi une formation à Brême quand il était jeune. Donc.
Mais quel autre club belge va chercher un Détroit allemand de... Il y a une réussite, il n'y a, pas beaucoup d'exemples.
Non, mais ce système, c'est des statistiques, comme en NFL.
Mais tout le monde a accès à ces statistiques.
Moneyball, Moneyball.
Non, c'est des statistiques vraiment très, très, très poussées.
Oui, c'est ça. C'est, quand on parle de statistiques, je ne pense pas qu'on parle pas du nombre de... On ne parle même pas du nombre de passes effectuées, du pourcentage de réussite. C'est plutôt...
Non, même, le, même les courses avec ballon, les courses sans ballon.
À haute intensité, pas haute intensité.
Les choix de position dans la surface sur des actions similaires. Et puis, tu as 400 possibilités.
Combien de temps ils conservent le ballon sur chaque... combien de touches si
L'Union a pris ses données en compte pour recruter un tel ou tel joueur. Mais d'autres clubs pourraient avoir accès aux mêmes données.
Alors, oui, mais quand le propriétaire de l'Union est propriétaire des données.
Il y a aussi une question. Il y a aussi, pour ceux qui ont vu, je vous conseille d'ailleurs à tous de voir ce film. J'adore Moneyball, le stratège, ça s'appelle en français très mal traduit le titre, avec Brad Pitt qui joue le rôle du general manager de l'équipe des Oakland A's en Major League Baseball. C'est un film qui est tiré d'un livre qui repose sur une histoire vraie où ils se sont dit ben, on n'a pas les moyens. De concurrencer les New York Yankees, de concurrencer toutes les grandes équipes. On ne peut pas jouer avec eux. On a notre payroll est beaucoup, beaucoup plus faible que le leur. Donc, on pourra jamais être en compétition avec eux sur les signatures de très grands joueurs. Il faut qu'on trouve autre chose. Et c'est vrai que quand on a moins d'argent, eh ben on fait marcher les méninges un peu plus. Et donc, on le voit dans ce film qui est vraiment très sympa, où il y a le personnage de Jonah Hill qui vient un petit peu remettre en cause toutes les croyances sur le baseball. Surtout, le baseball, c'est un sport très machiste, très américain, dans le sens où, rester en dehors de tout ça, on connaît. Les gens qui sont les scouts connaissent le baseball, et on se rend compte, dans ce sport aussi, qu'ils jugent et ils recrutent des joueurs sur des paramètres qui sont tout à fait extra-sportifs, en disant, bah, celui-là, il fréquente des clubs de striptease, donc ça va pas être un bon. Il risque d'être instable pour nous, ou alors au contraire, tel ou tel fait ceci ou cela. Mais ils vont chercher des statistiques auxquelles personne ne pense, et j'imagine que c'est ce qui
aussi,
fait la différence.
Le comportement, le nombre de blessures répertoriées, etc. Tout l'état physique et psychologique du joueur est pris en compte aussi, évidemment.
Ouais, ça fait vraiment. C'est une différence qui se fait énormément, comme quoi le carnet de chèques, même s'il n'est pas très usité en Belgique, ne peut pas tout faire, ne peut pas faire la différence sur tout. Est-ce que vous avez encore envie de parler de quelque chose en Jupiler Pro League dans les matchs qui se sont déroulés ce week-end? On rappelle que le Standard l'a emporté. Coucou à Steve.
On peut peut-être faire une brève parenthèse sur la D1B.
Absolument.
Le Standard B, justement, a fait match nul contre Beveren. Bon, ils ont encaissé dans les dernières minutes de but, mais soit. Mais du coup, l'RWD m'est passé en tête.
Exactement, le RWDM en tête.
Après, il y a des playoffs qui arrivent, mais...
Mais
en tous les cas, pour la première fois de la saison, je pense, RWDM passe en tête, ou en tout cas la première fois depuis longtemps. Les Bruxellois ont leur sort entre les mains, j'ai envie de dire.
Exactement, on pourrait avoir une nouvelle équipe bruxelloise en D1A l'an prochain.
Mais qu'un un seul montant, je pense.
Oui.
Et ce sera peut-être...
Ça va être chaud.
Ça va être chaud, mais...
Surtout que tu as Beveren et le Berscott en embuscade.
Beveren et Mbokani qui...
Tout à fait.
Donc voilà pour la Jupiler Pro League. On rappelle donc au classement, Genk toujours en tête, 58 points, 6 points d'avance sur l'Union. Troisième, l'Antwerp qui est à 12 points de Genk. Quatrième, le club de Bruges qui est revenu à la faveur de la défaite de la Gantoise 2-3 face au Cercle, je crois. Le club de Bruges est donc revenu à la quatrième place, cinquième la Gantoise, sixième le Standard, septième Westerlo, fait une belle saison, et huitième le Cercle de Bruges qui aussi fait une belle saison. Et en embuscade, Saint-Tron, OHL, et on leur souhaite Anderlecht, sachant que Charleroi a aussi un match en retard et se trouve à un point seulement derrière Anderlecht. Donc rien n'est fait, ni pour la descente, ni pour les playoffs 1, ni les playoffs 2. Tout plein de choses très excitantes qui vont arriver encore dans les 11 dernières journées de championnat. C'est le générique de fin. Le générique d'entrée, le générique de sortie. Est-ce qu'on y serait pas l'heure de parler un petit peu de business avec toi, monsieur Alex? Si oui, alors... Alors, Alex, il va être question d'un animal. Pas exactement, mais enfin, en tout cas, une marque presque qui porte un nom d'animal.
Je vais vous raconter une histoire.
Ah ah.
L'histoire de Castor. Non, Castor, comme on le sait...
Mais raconte-nous donc... une histoire.
Voilà, c'était la petite fête. Non, donc Castor, comme on le sait, c'est un équipementier sportif. Glasgow Rangers, là, on l'a vu il y a peu de temps face à l'Union, c'est leur équipementier. C'est des beaux maillots, c'est bien sympa. Mais en fait... C'est un gros challenger pour Nike, Adidas, Puma qui fait partie d'Adidas aussi, parce que Castor existe depuis 2015. Ils ont commencé vraiment en 2016. Ils ont eu Andy Murray, le tennisman, comme premier fer de lance, j'ai envie de dire. Et petit à petit, ils ont grandi dans le cricket, sur le territoire anglais majoritairement. Et puis en 2019, il y a eu un souci aux Rangers. Il y a eu un litige entre le club de Glasgow et Hummel. Et là, Castor en a profité pour devenir l'équipementier des Rangers. Et donc, Tom et Phil, les deux frères qui ont créé Castor, c'est la fête.
Ouais.
C'est un énorme club, riche en histoire, qui joue l'Europe.
Venir
qui
adosser son nom à celui des Glasgow Rangers,
c'est une... Qui s'associe à leur marque, c'est le début. C'est le début de l'aventure. Et donc, aux Rangers, ils deviennent équipementier. Pourquoi? Parce que finalement, ils savent se mettre en avant. Et Castor, c'est un circuit court. Donc, les maillots sont produits, enfin, tous les équipements sont produits en Europe. C'est un petit staff administratif marketing. Donc, ils savent créer aussi sur mesure des maillots, des équipements, même des hoodies, du merchandising.
Et donc, on imagine une réactivité qui doit être...
Une énorme réactivité. Circuit court, rapide, efficace. Il paraît que c'est 3 fois plus rapide que certaines autres marques. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi les finances qui jouent. Castor vend ses maillots moins chers que la plupart des autres marques. Et donc, le fee est également moins cher que Castor paye au club. Les royalties, donc par exemple, on sait que Adidas paye des sommes astronomiques en millions au Real Madrid. Castor ne le fait pas. Il donne un petit montant, mais surtout une très grande marge bénéficiaire variable en fonction des ventes. D'accord. Ce qui est très intéressant pour les clubs, car le club a en fait son sort entre ses mains. Au plus tu vends, au plus tu produis, au plus d'argent tu auras toi-même.
Ça responsabilise un petit peu, d'une certaine manière.
Et on en revient au point aussi, qui permet le circuit court en Europe. Ce n'est pas produit en Asie, avec des frais astronomiques non plus de livraison. Parfois, ils vont jusqu'à 40, 50, 60 000 euros, rien que de la livraison. Et donc, il y a aussi une ligne féminine. Mm-hmm. C'est un des premiers qui a vraiment lancé aussi une ligne complètement dédiée aux femmes. Donc ça, c'est des USP. Pour les clubs, c'est quelque chose d'intéressant pour travailler avec. Il y a les Rangers, et depuis les Rangers, ça ne cesse de grandir. Il y a eu Newcastle, il y a eu Wolverhampton, il y a eu Almeria, il y a eu Séville, il y a eu récemment Leverkusen, et on l'a appris cette semaine, l'année prochaine, il y a Feyenoord. Donc la marque Castor s'installe en Espagne, en Italie, il y a Genoa, pardon, il y a en Allemagne, aux Pays-Bas, et il manque la France et la Belgique. Ce qui serait intéressant de savoir, c'est où.
Ah.
Et on pensait peut-être à l'Union,
peut-être.
Parce qu'il y a la filiale anglaise. Mais non, l'Union sera chez Nike l'année prochaine.
Ah.
Donc, ce ne sera pas l'Union. Mais je suis très curieux de voir la prochaine marque que Castor va équiper.
Eh ben, c'est une belle histoire, une belle saga pour un équipementier. On sait que c'est compliqué de se faire une place, comme tu l'as dit, il y a les géants, les Nike, les Puma, les Adidas. Il y a les challengers... habituel, Hummel par exemple, on sait qu'ils avaient fait pendant la Coupe du Monde
Ils ont fait des maillots fantastiques Hummel pour de nombreux clubs. Hein.
Ils ont fait des super maillots, et c'est l'équipementier du Danemark notamment, et qui avait décidé d'être, voilà, qu'on ne voit pas le logo Hummel, il était blanc sur blanc je crois, Je pense qu'il y était quand même, mais blanc sur blanc, ou peut-être pas du
c'était
tout.
C'était monochrome, oui.
Voilà. Mais c'est vrai que bah, du coup, Castor, c'est une belle aventure pour eux de se lancer. On voit la, le type de club, c'est amusant parce que souvent, on s'associe à un club qui nous ressemble. Voilà. C'est des clubs challengers. Le Feyenoord, c'est souvent considéré comme le troisième club néerlandais. Les Rangers, depuis 15 ans, c'est devenu le deuxième club écossais. Et effectivement, ce sera intéressant de voir qui va pouvoir signer en France ou en Belgique. Tu nous dis donc que ça ne serait pas l'Union, puisqu'il y a autre chose qui est en préparation. Eh ben merci beaucoup Alex pour cette petite histoire de Castor, non pas ni Castor ni Pollux, mais Castor, le Castor l'équipementier. Alors,
c'est intéressant parce qu'au-delà de, la, ouais. au-delà de l'argent, de l'aspect budget, c'est tellement important pour les supporters d'être en adéquation avec l'équipementier.
Je suis d'accord. Surtout qu'il
y a une, surtout qu'il y a une belle histoire derrière.
Il y a une belle histoire, c'est éthique. Et puis, je trouve que souvent, c'est une bonne façon de. On se demande comment les clubs peuvent créer un lien avec leurs supporters. Je pense que les maillots, c'est.
Les maillots,
c'est la porte d'entrée.
Absolument. Ça va me donner une transition excellente. Merci Henri, on pensait qu'on aurait dit qu'on allait jouer ça ensemble. On va passer à ailleurs en Europe et en Ligue 1. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que le Paris Saint-Germain jouait hier avec son nouveau maillot, le fameux Jordan PSG X12000,
qui
écrit en chinois dans le dos. Une info Sportimize, absolument. Et ce qui a fait dire à mes enfants qui regardaient le match hier, mais pourquoi donc joue-t-il avec un maillot avec ce maillot-là? C'est pas les maillots du PSG, c'est pas la couleur du PSG. J'ai dû leur expliquer qu'effectivement, les équipementiers cherchaient à diversifier au maximum, et donc que le maillot fameux maillot 4, c'était une chose qui devenait très importante.
Ici, pour la petite histoire, c'est un maillot confectionné en hommage à la Tour Eiffel de nuit, où on voit les lignes ainsi que les phares dans Paris.
Okay.
Et ce maillot, c'était pour l'occasion hier, qu'il était floqué, comme tu disais aussi, pour le Nouvel An chinois avec des lettres en mandarin. Et ces maillots sont en vente sur Matchworn Shirts. Et quand j'ai regardé là tout à l'heure, le maillot de Messi était déjà à 25 000 euros.
Wow. Eh ben voilà.
Avis aux amateurs. c'est les Chinois d'ailleurs, plus majoritairement, qui ont placé une enchère à ce prix-là.
Écoutez, ben voilà, je pourrais répondre à mes enfants et leur expliquer en quoi le move du Paris Saint-Germain était sans doute malin. Et pourquoi papa l'achètera pas. Parce qu'il aime beaucoup Messi, mais à ce prix-là. Voilà. Justement, le PSG, rien ne va plus pour eux. Ils ont été accrochés hier par Reims. On a l'impression que le PSG n'est pas revenu de la Coupe du Monde. Il semble qu'ils ils attendent la Ligue des Champions comme le rendez-vous, mais à ce rythme-là et vu comme ils jouent, j'ai l'impression qu'il va y avoir deux matchs de Ligue des Champions et que ce sera merci, au revoir et à l'année prochaine. Je rappelle qu'ils joueront contre le Bayern Munich. Alors ils ont enchaîné les défaites. Là, hier, c'était un match nul. Ils auraient dû gagner ce match parce que quand vous menez 1-0 à 30 secondes de la fin, vous avez le ballon dans les pieds, et que vous avez Marquinhos, Sergio Ramos en défense centrale, vous n'avez pas le droit de vous faire transpercer sur une remontée de balle comme ça. Quand je dis vous n'avez pas le droit, évidemment tout est possible, mais c'est ce sur quoi a insisté Galtier, l'entraîneur, en disant quand même, je me pose des questions sur l'investissement des joueurs, de certains joueurs, et sur le fait de passer à côté sur une fin de match comme ça lorsqu'on mène. Comme je disais et comme le disait Thierry Henry, il y a des matchs qu'il vaut mieux gagner salement, ou en tout cas gagner, et on en reparle après.
Mais il y a aussi l'adversaire, le Stade de Reims,
qui a
une abnégation énorme, qui a une envie, qui ne lâche vraiment rien.
Et qui a le diable rouge.
À la 96e minute.
Et qui a le diable rouge, le diable, le belge en tout cas du week-end, Will Steele. L'entraîneur.
Oui, pas Thomas Fouquet.
Non, qui revient. Il a eu un tel passage à vide, Thomas Fouquet, qu'au moins, c'est sympa de le voir revenir. Mais Will Steele, le plus jeune entraîneur des cinq grands championnats, si on peut dire. Will Steele, qui a 30 ans. On le connaît parce qu'il a été, T2, puis T1 au Berscott. Il avait pris la suite de Losada, il me semble, quand celui-ci est parti à Washington. Il a été assistant à Reims, il est reparti, et puis il est revenu.
Il était au Standard, effectivement, avec Lucas Elsner, si je ne me trompe pas. Mais j'aimerais encore revenir plus tôt. Il était analyste vidéo, et puis il a gravité les échelons. Mais j'aimerais encore revenir plus tôt, en 2017. Il était au LIRS,
oui.
Et il était également entraîneur adjoint au LIRS. Et puis il a repris le flambeau, je ne sais plus de qui, mais il a repris le flambeau. Et là, il avait également enchaîné 7 matchs sans défaite, avec le LIRS qui n'était pas super bon à l'époque en D1B. Et sa série s'est arrêtée à l'Union Saint-Gilloise, je me souviens, un beau lundi soir, dans le frais, dans le stade Roi Baudouin en plus. Mais je veux dire, de là déjà, il faut dire, Will, c'est déjà quelqu'un qui est professionnel à 400%. C'est quelqu'un qui connaît le jeu, c'est quelqu'un qui est proche des joueurs, c'est quelqu'un qui sait motiver ses joueurs, mais c'est aussi quelqu'un qui sait se faire respecter, qui sait inculquer ses tactiques, sa stratégie, son envie à son groupe. Et on voit que c'est très réceptif du côté du Stade de Reims, parce qu'en Ligue 1, enchaîner 13 matchs d'affilée sans défaite, à part le PSG et Lyon, je ne vois pas qui l'a fait les dernières années.
Ah, c'est très impressionnant, et il avait annoncé la couleur, en tout cas un peu avant le match, en disant qu'ils n'allaient pas venir en victime expiatoire au Parc des Princes, qu'ils allaient jouer comme ils ont l'habitude de le faire et qu'ils allaient tout donner. Il avait insisté sur le côté sur l'agressivité qu'il fallait mettre. Ça avait été parfois mal interprété par les commentateurs. Il n'empêche qu'ils ont réussi leur coup en égalisant avec abnégation à la toute dernière minute. Ils auraient pu même, un peu comme certains clubs belges, le Paris Saint-Germain n'a pas réussi du tout son match et il aurait pu être bien heureux. Ils ont été en tout cas bien heureux de revenir à la mi-temps avec 0-0. Il s'est passé encore une chose à mettre au débit du PSG, mais ça c'est leur problème récurrent parfois. Ça n'allait pas au milieu de terrain. Galtier a fait les modifications, les ajustements qui semblaient convenir à la mi-temps, faisant monter Marco Verratti qui est revenu de blessure un peu plus tôt que prévu. On s'est dit, ah bah très bien, on espère juste qu'il ne va pas pouvoir, qu'il ne va pas se blesser. Mais il risque pas de se blesser jusqu'au Bayern Munich, en tout cas, puisqu'il a pris, comme tu le dis, un petit coup de rouge assez rapidement. Il a donné, il était sur le but, bien inspiré sur le but, et puis quelques minutes après, un tacle à retardement sur Ito, il me semble, l'ancien pensionnaire de Jupiler Pro League, et il a pris un rouge. Et voilà comment le PSG a laissé passer sa chance de l'emporter. Et voilà comment Will Steele poursuit effectivement son incroyable run de match sans défaite.
Et tout à fait dans la marge de tout ça, il ne faut pas oublier qu'il a aussi un entraîneur adjoint, Samba Diawara, qui est également hyper professionnel et qui était plutôt cette saison l'entraîneur adjoint de Felice Mazzu,
Anderlecht.
Pourquoi tout le monde qui part d'Anderlecht a bien réussi.
Will Steele, c'est...
On est devant Mazou encore.
Est-ce que Will Steele est une... Mais ils ont un match de retard.
Hein. Ils ont un non, c'est la défaite contre Malines au classement.
Ah oui, c'est vrai. Will Steele, c'est un nom qui... On va pas aller trop vite en besogne, mais il s'affirme en tout cas, à son âge quand même, c'est incroyable, si jeune. Il s'affirme comme un grand espoir des entraîneurs belges. Et on pourrait le revoir en Jupiler Pro League, je pense, d'ici quelques temps. Il y a peut-être des clubs qui auraient été mieux inspirés de le prendre lui que de prendre certains autres.
Il y a déjà Steele en Jupiler Pro League du côté de Eupen, son frère, Edouard.
Edouard, c'est vrai. Donc voilà, en tout cas, je voulais mettre ça fait passer la pilule un peu mieux pour moi, qui suis supporter du PSG, de mettre un coup de projecteur sur Will Steele, qui a fait un super boulot et qui donc permet au Stade de Reims d'être 11e
avec Ligue 1.
Voilà.
Commanderlecht.
Dis donc, il n'y a pas de...
C'est le football champagne des deux côtés.
C'est ça.
C'est ça. Exactement. La bière d'un côté, le champagne de l'autre, bravo.
Il y a un champagne qui est très bon, celui en France, et il y a un champagne sans bulles. Et avec de la moisissure à Bruxelles.
Ouh. Allez, on
passe à autre chose.
On retient les coups.
Mais c'est vrai.
Je vous propose qu'on passe un peu, qu'on parle un peu mercato. Mercato, on a, comme je vous le disais, le mercato va se conclure demain dans la plupart des championnats. En Belgique, on a eu pas mal de nouvelles, pas mal de départs, d'arrivées. Dante Van Zer, Dante, le bon Dante Van Zer, qui va nous quitter. Sans, très certainement, il a passé ses tests médicaux qui ont été concluants, visiblement. Et donc, il va pouvoir s'engager avec les New York Red Bulls. C'est une perte quand même pour la Jupiler Pro League.
Là, l'Union a été chercher Vertessen du PSV, qui a un plus grand talent que Dante, parce qu'il est fatalement plus jeune aussi. Mais je pense que Dante était à la fin de son aventure à l'Union. Ouais. Je pense que la MLS, pour lui, c'est un bon championnat. Ouais. Il a besoin d'espace. Et il va l'avoir. Donc, je pense que ça peut être très sympa. Et pour, tu as un Belge en MLS. Ça date de Léo van der Elst, il y a quelques années aussi. Même si maintenant, on sait qu'il va retrouver Benteke.
Ouais.
Il y en a eu d'autres entre-temps. Mais c'est toujours un Belge à New York. Ça fait toujours quelque chose de spécial pour tout amateur de foot.
Absolument, c'est sympa. Et puis c'est vrai, comme tu le dis, le championnat va sans doute convenir à ses qualités. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'était cassé déjà depuis... En fait, sa suspension l'an passé, avec cette échauffourée avec Ozan Wafor, qui l'avait bien plombé. Écoutez, on lui souhaite tout le meilleur. Comme tu le dis, dans le sens inverse, Jorbe Vertessen, qui vient du PSV Eindhoven, 22 ans. L'Union n'a pas tardé pour venir trouver le remplaçant. Est-ce qu'il y a d'autres transferts sur lesquels vous voulez réagir qui vous ont...
Quelques anciens du championnat. Il y a Terem Moffi, qu'on a vu très 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 brièvement à Courtrai, qui en a quand même profité pour en planter quelques-uns à Bruges, et qui lui était à Lorient, où il faisait quand même de très belles choses en Bretagne. Lui, il se dirigerait vers Nice.
Oui, il y a eu toute une histoire avec lui, il était pisté par l'OM, on pensait que ça allait être fait, puis Nice est entré dans la danse. Il semblerait que ce soit... plus ou moins conclu à hauteur de 25 millions plus 5 de bonus, quelque chose comme ça, enfin un chiffre hyper élevé. Ce qui fait que Didier Digard, l'entraîneur de Nice, ancien du PSG, c'est peut-être pour ça, n'a pas pu s'empêcher de balancer une petite pique quand on lui demandait en conférence de presse ce qu'il pensait du fait que justement Moffi allait sans doute signer à Nice chez lui. Plutôt qu'à l'OM, il a dit ça fait plaisir d'avoir un joueur intelligent. Ça va être...
Il ne faut pas oublier, Courtrai a été le chercher au fin fond du championnat lituanien, sur un gros malentendu aussi. Et le gars, il va se retrouver pour 25 millions dans l'Allianz Riviera.
C'est bien.
Et il y en a d'autres. Il y a Danjuma qui avait quitté Bruges, qui lui rejoint Tottenham sous forme de prêt. Et puis il y a un certain Jakub Kiwior. Et ça va peut-être dire quelque chose... à notre cher Henri, je le vois regarder bizarrement, comme c'est de la radio, personne ne te voit, ou à part sur Facebook, mais il était passé effectivement par Anderlecht.
Le nom dit quelque chose.
Il était passé par Anderlecht, mais on ne l'a pas jugé assez bon, et là il rejoint Arsenal.
Voilà, on est dans du...
C'est un Polonais, ça ?
Oui, c'est un Polonais. Ouais, terminer, on a un Belge aussi, Bakayoko du PSV.
Oui,
qui irait peut-être. C'est pour toi, ça. Ouais.
Qui serait peut-être sur les tablettes du PSG. Le PSG, on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire, ce qu'ils veulent faire au niveau de la...
Ils ne savent pas eux-mêmes, j'ai l'impression.
Je lisais un article qui disait le PSG, c'est le cimetière pour remplaçants. Et c'est vrai que toute personne qui, quand vous arrivez dans ce club, pardon, si vous n'êtes pas titulaire, les choses sont assez compliquées. On pense à des Sarabia qui avaient fait une super saison l'an passé. Draxler qui a passé 4 ans sur le banc et qui avance plus. Écoutez, ce Bakayoko, on lui souhaite.
Et du coup, on parle de Hazard, Thorgan. Le petit de Dortmund au PSV. Il y en a d'autres qui ont fait ce chemin inverse avant, comme Götze, mais avec quelques passages ailleurs entre temps. Mais bon, on parlerait donc de Thorgan Hazard au PSV.
Je pense qu'il doit partir, de toute façon.
Je pense aussi. Bruges était intéressé, apparemment. Mais. Ça ne s'est pas fait.
Et alors, il y a quand même un joueur qui quitte la Pro League, c'est Rajan Ngolan.
Oui.
Par la petite porte.
Triste fin de carrière, hein. C'est le Spal.
En tout cas, la fin de carrière en Belgique, oui. Mais...
Ouais, mais c'est vrai qu'à son âge, 34 ans, ils sont très mal classés en plus.
15e
de Série B. Ça va être.
C'est pas la gloire.
Au niveau international, je dirais. Ça a l'air de se confirmer, un transfert assez surpris, visiblement Joao Cancelo de Manchester City qui serait en route pour le Bayern Munich.
C'est le PSG qui va être content encore. C'est vrai que c'est pas un transfert auquel on était, on s'attendait nécessairement. J'aimerais aussi parler du recrutement de Chelsea, hein, parce que Chelsea a dépensé un pognon fou, si vous me permettez l'expression, Malo Gusto pour 30 millions, qui est prêté, donc il est acheté à Lyon, mais il y reste jusqu'à la fin de la saison. Il y a eu bien sûr Mudryk, qui a été acheté pour combien, je sais plus combien.
C'est le contrat qui posait question.
Ouais.
Un contrat aux normes tout à fait absurde. Et il faut savoir, l'UEFA voudra interdire ce genre de choses. Parce qu'un joueur, tu peux, d'un point de vue comptabilité, tu peux le mettre sur plusieurs années, mais pas sur 7.
Ça fait un peu beaucoup. Il y avait eu d'ailleurs, pendant un certain temps, je crois, une interdiction des contrats à trop longue durée.
Oui, c'est purement...
C'est comptable, fiscalement, voilà, c'est ça.
Oui, d'un point de vue comptabilité surtout. Mais après, la Première Ligue, c'est pas fini. Ils ont battu leur propre record. Il y a plus de 2 milliards de livres investis dans les transferts en hiver. Ils se battent eux-mêmes chaque année. Et Chelsea, oui, que pour l'hiver. Et Chelsea, il y a quand même...
Je crois qu'il y a quasiment 200 millions. Enfin...
Chelsea est vraiment énorme là-dedans. Ou bien c'est sur l'année, peut-être que tu...
En tout cas, c'est 70, écoute, 70 millions pour Mudryk. Vous y ajoutez 35 pour Noni Madueke, 20 ans, du PSV Eindhoven. 11 millions sur un prêt seulement de Joao Félix. Badiachil a été acheté aussi à Monaco, assez cher. Malo Gusto, donc on l'a dit, 30 millions.
Ils vont récupérer Romelu Lukaku.
Est-ce qu'ils vont récupérer alors Romelu Lukaku, j'entendais une rumeur qu'il l'envoyait plutôt du côté de Tottenham. En tout cas, un retour en Première Ligue. Ils ont acheté également, oui, donc Badiachil 38. Chelsea a acheté un Brésilien, Andrei Santos, de Vasco de Gama pour 12 millions et demi, 18 ans. Effectivement, ils sont dans d'autres sphères, dans d'autres dimensions. En Angleterre, on a également McKenny, l'Américain, qui jouait à la Juve, qui va arriver à Leeds. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, Sean Dyche, c'est le remplaçant de Frank Lampard, en tout cas sur le banc d'Everton, qui devrait être nommé. Quoi d'autre? Ouais, Caicedo, Moises Caicedo, 80 millions peut-être à Arsenal. Ils ont tenté le coup auprès de Brighton. À voir. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça, à part que...
C'est des chiffres hallucinants.
Hallucinants.
Le choix sportif m'étonne quand s'ils viennent chercher que tu vas être un parmi 60
je suis d'accord, ouais.
Salariés.
Il y a une philosophie qui considère qu'il vaut mieux être titulaire au Torino que de cirer le banc du Milan AC. Bon, le Milan AC peut-être plus tout à fait le club
après,
que c'était.
Mais surtout, c'est surtout le club qu'on peut se poser des questions. C'est voilà, je rentre dans un magasin, je prends tout, il y a bien quelque chose qui va me convenir.
C'est ça.
Est-ce que c'est une stratégie tangible et efficace à long terme? Je ne pense pas.
On peut en douter, ouais.
Après, ce que Chelsea faisait avant, et ça par exemple avec Kevin De Bruyne, c'est ça qui fonctionnait. Et après, je te fais un assist pour les Diables, mais ils recrutent un tas de joueurs, ils les prêtent à 50 clubs différents. Ils reviennent et ils les vendent très cher. Donc finalement, tu as un retour sur investissement. Ici, quand tu vas chercher un Badiachil à 30 millions,
oui, c'est ça.
Le retour sur investissement, j'ai du mal à l'imaginer.
Oui, c'est-à-dire que s'il est très bon, ils vont le garder. S'il n'est pas bon, il ne vaudra plus jamais 38 millions. Ça, c'est sûr. Merci pour l'assist. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais on va quand même en parler. Ça semble se confirmer au niveau du directeur technique, puisque Franky Vercauteren semble sur le point de finaliser avec l'Union belge de football. En revanche, au niveau du sélectionneur, des nouveaux noms qui semblent... on a oublié les pistes, des pistes un peu plus prestigieuses. On avait parlé de Villas-Boas, on avait parlé
Pochettino.
Il semblerait là que ce soit Domenico Tedesco, l'italo-allemand, qui soit en tête. Et Peter Bosch aussi, ancien entraîneur de Lyon, qui pourrait être également un candidat sérieux. Vous en pensez quoi? Est-ce que vous en pensez quelque chose?
J'en pense qu'il est temps.
Qu'il est temps déjà de trouver quelqu'un.
Il est largement temps, on est en février. Premier match officiel en mars.
On va commencer par une boutade. Je pense que Peter Bosz est un très bon choix parce qu'il est hollandais, il parle flamand. Et en plus, il parle français après son passage à Lyon. Donc d'un point de vue communautaire, c'est parfait. Mais sans déconner, je pense que Tedesco, c'est pas mal du tout. Et il était déjà, et son nom circulait déjà à Bruges cet été et cet hiver. Je pense que c'est quelqu'un de très professionnel, très rigoureux, très jeune aussi, parce qu'on parlait de Will Steele, mais Domenico Tedesco est assez, il a la trentaine aussi. Et il est surtout mordu de statistiques. Et c'est comme ça qu'il va aussi faire jouer son équipe et vraiment mettre le meilleur en avant à chaque position. Donc je pense que c'est un pari calculé et qui peut faire de belles choses. Et s'il peut implémenter une rigueur allemande et une envie de gagner et surtout une abnégation et un jusqu'au boutisme à toute épreuve, je pense que c'est un excellent choix pour les Diables.
Et bien voilà, on va s'arrêter là. Merci pour vos interventions et on vous donnera des nouvelles peut-être la semaine prochaine de la nomination du nouveau sélectionneur belge.